Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur d'économie et votre dernier livre ambitionne de nous faire comprendre l'économie, histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs jusqu'aux cyber-travailleurs. C'est le titre de ce livre paru chez Talendier. Un mot pour commencer sur la reprise que nous promet le gouvernement avec une forte croissance, des emplois à la clé, une économie française qui serait donc en train de surmonter ce qu'on appelle un choc, le choc le plus violent depuis la fin de la guerre 45. Jean-Marc Daniel, est-ce que vous êtes aussi optimiste que le gouvernement ?
Oui, je suis aussi optimiste que le gouvernement. Simplement, il faut bien avoir conscience que c'est un effet de rattrapage. Un effet mécanique. Le véritable enjeu dans ce qui s'est passé, c'est de savoir à partir de quel moment un pays, une économie, va retrouver son niveau de production du dernier trimestre de 2019. Et on constate que la France, ce sera juste ce trimestre que nous sommes en train de vivre, là, le dernier trimestre en 2021.
C'est-à-dire qu'on va surfer sur la vague de la reprise, selon vous, juste pendant un trimestre ?
Non, à partir de ce moment-là, on va retrouver une dynamique qui sera celle de la dynamique des années 2019.
Et pendant combien de temps on va pouvoir surfer comme ça ?
Il y a une forme d'inertie. L'économie française a une croissance potentielle, une croissance moyenne, une croissance de long terme entre 1 et 1,5%, ce qui fait que après les 6,5% de cette année, après on va retrouver 1,5% de croissance avec les problèmes que nous avions en 2019. C'est-à-dire, même si le chômage recule, même le taux de chômage reste beaucoup plus élevé que celui de nos partenaires, et surtout nous avons un déficit de notre balance des paiements courants, un déficit extérieur qui est considérable.
Mais cette situation économique dans laquelle on est en ce moment, c'est pas du tout ce que vous prédisiez, vous les économistes, pendant cette crise sanitaire. Alors on n'en est pas complètement sorti, on sent bien que ça va mieux, c'est pas ce que vous disiez, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais ce qui s'est passé, c'est que les économistes ont appliqué, à mon avis, sur l'économie française, les schémas d'un choc endogène, un choc qui aurait été lié à des mécanismes internes à l'économie. Or, le choc était un choc purement exogène. C'est-à-dire qu'il y avait cette pandémie et, comme conséquence économique, la décision des autorités d'arrêter l'appareil productif. Mais l'appareil productif n'était pas détruit en tant que tel. C'est-à-dire, quand notre président de la République disait « nous sommes en guerre, dans une guerre, les usines sont rasées, les ponts explosent, il y a toute une partie de l'appareil productif qui disparaît. »
Et ça, vous avez mis du temps à mesurer ça ?
Et donc, un certain nombre d'économistes ont mis du temps à mesurer ça. Ce qu'ils avaient bien perçu, c'est que si l'appareil productif physique n'était pas touché, l'appareil financier des entreprises, c'est-à-dire la capacité financière des entreprises, puisqu'elles ne vendaient plus, puisqu'elle ne réalisait plus de profit, allait être affectée. C'est-à-dire les fonds propres allaient en partie y passer. Or, le gouvernement, et dans la plupart des pays ça a été le cas, s'est substitué aux entreprises pour leur permettre de conserver leur matelas financier. En France, ça a été essentiellement les PGE. La conséquence de tout ça, c'est que...
Les plans garantis par l'État.
Si vous regardez la contraction de l'économie qui a eu lieu en 2020, qui a représenté entre 8 et 9% de la production, 80% des conséquences de cette production 80% de cette contraction a été assumée par l'État, 20% par les entreprises et pratiquement rien par les ménages. C'est-à-dire le revenu des ménages a été globalement maintenu. D'ailleurs, les ménages ne pouvant pas aller dans les magasins ont épargné ce revenu maintenu.
Cela dit, dans votre livre, vous n'êtes pas tendre avec l'État protecteur quand il se mêle de vouloir être entrepreneur. Vous dites, je vous cite, qu'il finit toujours par être plus prédateur que protecteur.
Oui, je pense que...
Ça, c'est le libéral qui parle.
Oui, absolument. Le libéral assumé qui parle, le disciple des libéraux anglais. Le livre est un peu un éloge et un hommage rendu au libéralisme anglais du 19e siècle. Effectivement, l'État, quand il se lance à la fois dans la production et dans la volonté de protéger, assez vite subit des échecs et il est obligé de répercuter les conséquences de ces échecs sur l'ensemble de la population sous forme de prédation. Alors, prédation immédiate au travers des hausses d'impôts, prédation différée au travers d'un endettement qui conduit à des hausses d'impôts dans le futur.
Mais alors donc, qu'on soit juste très clair sur cette première partie où on parle de reprise économique, cette reprise, elle va être durable ou pas ?
Oui, cette reprise, elle va être durable en ce sens que l'année prochaine, on aura de nouveau un taux de croissance supérieur à ce qu'il était en 2019, et puis à partir de 2023, on retrouvera le rythme traditionnel de la croissance française et les problèmes de la croissance française.
Et les retombées économiques de cette reprise, Emmanuel Macron veut l'utiliser pour financer son vaste plan d'investissement baptisé France 2030. Il va le présenter mardi prochain avec des projets pour l'aviation verte, l'espace automobile, les start-up industrielles. industriels, on va en reparler. Les uns disent qu'il ne s'agit que d'un plan de communication. Est-ce que vous estimez au contraire que ça vaut le coup de se lancer dans un tel plan?
Je pense que c'est effectivement un plan de communication, de même que le budget qui est examiné en ce moment ne sera jamais appliqué. On est à 6 mois d'une élection présidentielle, donc on est dans la phase où il y a énormément de promesses. Ce qu'il y a de frappant, c'est que le quoi qu'il en coûte s'est transformé de réponse au choc exogène lié à la pandémie en moyen de faire une campagne électorale. Donc on aligne...
Enfin, le quoi qu'il en coûte, c'est fini pour l'instant.
Oui, le quoi qu'il en coûte en tant que tel.
On a mis un tour de clé, un tour de vis,
à tout ça. Néanmoins, on continue à annoncer des dépenses et les candidats, les uns et les autres, multiplient les propositions de dépenses et les propositions de réduction de recettes.
Alors, mais je n'ai pas compris pourquoi c'était de la communication uniquement. Ça ne vaut pas le coup de lancer 30 à 50 milliards sur 2030?
Je pense que lancer 30 à 50 milliards d'euros d'investissement public, ça supposerait qu'on ait une vraie vision de ce qu'on veut faire de ces investissements publics. Et ça supposerait que l'héritage historique et l'expérience historique qu'on a des actions de l'État soit plutôt positive. Or, c'est loin d'être le cas. Je rappelle régulièrement, alors, le plan calcul, tout le monde me dit, mais le plan calcul...
Vous avez parlé du Concorde.
Plus personne ne sait.
Et le TGV aussi.
Oui, alors.
Mais ça marchait bien, le TGV.
Le TGV, ça marchait bien, mais c'est un peu le TGV comme le Minitel. Tout le monde a été fasciné par le Minitel, et puis un beau jour,
fait doubler.
Oui, il y a quelqu'un qui a dit, le Minitel, tout le monde nous l'envie, personne ne nous l'achète. Et donc, je pense que c'est ça un peu un des problèmes de l'État.
Mais le problème, c'est quoi? C'est, on sait plus imaginer le monde de demain, ce dont on va avoir besoin?
Je pense qu'on l'a jamais imaginé. Je pense que des
grands... même quand on a fait le Concorde, TGV, oui, ce qu'on disait à l'instant, Ariane Espace,
tout
le nucléaire, tout ça, on n'a pas su l'imaginer.
Il y en a une partie qui a été un échec, il y en a une partie qui a été une réussite. Au 19e siècle, il y avait des crédits énormes pour développer le réseau d'acétylène, parce que des gens vous expliquaient que l'électricité n'avait aucun avenir et qu'on allait s'éclairer à l'acétylène. Et puis tout ça, plus personne ne sait ce que c'est que l'acétylène, à part les spéléologues. Donc, je pense que chaque fois qu'une décision est prise, cette décision, en fait, repose sur des éléments assez fragiles, et que ce qui fait avancer sur le plan économique, mais sur le plan du progrès technique, c'est ce que les spécialistes des sciences appellent la sérendipité, c'est-à-dire des gens qui découvrent des choses qu'ils ne cherchaient pas, des gens qui... Et donc...
Vous voyez pas quand même des filières d'avenir dans lesquelles il va falloir massivement investir?
Il y a des filières d'avenir, et clairement, un des problèmes de la France depuis toujours, c'est qu'elle n'est pas en capacité de produire l'énergie dont elle a besoin. Elle n'avait pas de charbon, elle n'avait pas de pétrole,
Mais des idées, on disait
voilà.
À l'époque.
Et donc, elle cherche à substituer à son absence d'énergie des idées. Elle n'est pas la seule. Dans les 6 pays qui font la course en tête depuis la fin du 19e siècle, le Japon, les 4 pays européens de référence, et puis les États-Unis, l'Italie, le Japon et la France n'ont pas de pétrole, n'ont pas de charbon. Et donc, ces pays ont été obligés d'avoir des idées. Donc, nous cherchons à avoir des idées, notamment dans le domaine de l'énergie. Donc, ce qui est à la mode en ce moment, c'est l'hydrogène. L'hydrogène vert. Alors, parce que
ça
oui.
Vous fait sourire.
Oui, parce
rire
que...
même.
Oui,
on va préciser ce que c'est. Emmanuel Macron veut doter la France de petits réacteurs à l'hydrogène vert, en disant c'est un secteur d'avenir. D'ailleurs, on pourra exporter. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non, parce que je pense que le marché est capable, si vraiment il y a un besoin, s'il y a une attente du consommateur, de prendre ça en charge. Je prends l'exemple de l'électricité. L'électricité, en 1946, lorsqu'on a nationalisé l'électricité en disant c'est l'avenir, il faut absolument que l'État s'en mêle, nous avions un réseau, il y avait 363 compagnies d'électricité qui avaient électrifié le pays, et nous étions le pays le plus doté en électricité d'Europe occidentale. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient compris ce qu'était l'électricité, les investisseurs privés qui avaient compris l'enjeu qu'il y avait autour de l'électricité, avaient réalisé les investissements nécessaires.
Mais donc ça veut dire qu'on n'est plus capable de faire émerger des grands champions industriels?
Mais je pense qu'on n'a jamais véritablement été capable de faire émerger des grands champions industriels, sauf dans un cadre purement protectionniste. C'est-à-dire, on a fait émerger des champions, entre guillemets, avec l'idée que, de toute façon, ils avaient la certitude que le marché étant protégé, ils réaliseraient des bénéfices, et que ces bénéfices, quelles que soient les décisions qu'ils prennent, seraient tout quand même au rendez-vous.
Mais Elon Musk, par exemple, qui peut faire rêver aux États-Unis, nous, on n'est pas capable d'avoir un Elon Musk français.
Ah si, il faut absolument favoriser Elon Musk. Le véritable problème pour nous dans ce genre de situation, c'est que les Elon Musk potentiels, les gens qui ont une formation d'ingénieur de haut niveau, et en France, nous avons des formations d'ingénieurs de haut niveau, ces gens-là, ils partent aux États-Unis pour rejoindre Elon Musk. Ils partent aux États-Unis parce que c'est là qu'ils considèrent qu'ils sont reconnus.
Alors, est-ce qu'on met justement suffisamment d'argent d'argent, parce que 30 milliards ou même un peu plus, Eric parlait tout à l'heure, jusqu'à 50. Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que c'est suffisant pour prendre éventuellement, en tout cas essayer de prendre un coup d'avance, puisque c'est quand même comme ça que l'exécutif en parle?
Je pense que, encore une fois, ces 30 à 50 milliards sont inutiles. En revanche, on utiliserait cette somme si on considère que l'État est en capacité de soit de dépenser 30 à 50 milliards, soit de perdre 30 à 50 milliards de recettes. Il vaut mieux faire des baisses d'impôts significatives sur les entreprises, des baisses d'impôts sur l'investissement des entreprises au travers d'une nouvelle fiscalité de l'investissement.
Mais ça manque du coup d'après, ça, quand
vous
dites ça. Mais
voilà, elles vont faire que approfondir des secteurs dans lesquels elles sont déjà, alors que là, on est dans l'invention, dans l'innovation, dans ce qui arrive derrière.
Oui, vous avez l'impression que c'est l'État qui maîtrise l'avenir, qui comprend l'avenir. Et encore une fois, ce que montre l'histoire, c'est que les grandes inventions ont été faites par des gens un peu bizarres, un peu perdus, par des gens qui se sont engagés dans l'aventure. L'entrepreneur, tel que le définit Schumpeter en particulier, c'est un personnage qui est habité, qui est quasiment un fou, qui ne sait pas très bien où il va, mais qui y va. Et donc, l'État, au contraire, lui, en général, il sait très bien où il va, et il y va à pas compter. Et donc, l'État n'a jamais été, selon moi, le porteur de l'avenir. Regardez les pays de démocratie populaire qui étaient avec des planificateurs, des gens intelligents qui réfléchissaient. À la fin des fins, ils finissaient par faire de l'espionnage industriel pour aller voir ce qui se passait aux États-Unis.
Mmh. Discours libéral dans votre livre, d'ailleurs, vous distinguez bien les productifs et à l'opposé, ce que vous appelez les oisifs. Alors, oui. Ça comprend tous les bureaucrates, les fonctionnaires aussi, j'imagine, un petit peu.
Tous les oisifs.
Vous n'êtes pas tendre avec ça. Hein.
Oui, tous les rentiers, tous les gens qui, à un moment donné, obtiennent un revenu sans fournir en regard le travail équivalent.
Mais ça veut dire qu'il ne faut pas de fonctionnaires?
Ah non, je dis pas ça. Je dis qu'il faut des fonctionnaires, qu'il y a des missions de l'État qui sont clairement identifiées, les missions que l'on qualifie en général de régaliennes, et qu'il faut qu'il y ait des gens qui les accomplissent. Mais je cite dans le livre, au tout début, cette opposition au travers d'un texte de Voltaire, qui est son livre d'économie, L'homme aux 40 écus, dont, par snobisme, je dis que c'est le seul livre d'économie jamais écrit dans l'histoire. C'est le livre de référence absolue. En fait, c'est un conte assez court et pas des plus brillants de Voltaire, mais il oppose la charrue, les gens qui travaillent, les gens qui produisent, au froc. Le froc, c'est les moines. Et donc, pour lui, les gens qui sont les gens qui ne produisent pas et qui vivent au crochet des gens qui produisent, c'est religieux. Ça ne veut pas dire pour autant que...
Mais les moines faisaient du vin, les moines faisaient du fromage, exactement. Les moines faisaient...
Voilà, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils faisaient totalement rien.
Ils sont nécessaires dans une économie aussi.
Oui et non, parce que la vocation des moines, c'est pas de faire du fromage, c'est plutôt de vous apporter le salut éternel. Et donc, c'est dans cette partie-là que Voltaire s'interrogeait sur leur pertinence de leur rémunération.
Mais dans votre livre, la part des oisifs par rapport quel pourcentage par rapport à la part des productifs?
Alors c'est très...
Est-ce qu'il pèse si lourd que ça, finalement?
Ah ben, il pèse de plus en plus. Je cite d'ailleurs une loi d'un économiste allemand de la fin du 19e siècle qui dit que plus la société se civilise, plus l'État devient dispendieux. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est que un des paradoxes de l'histoire, c'est que l'efficacité économique qui va permettre aux gens de vivre mieux va se traduire aussi par le fait que la société va entretenir de plus en plus d'oisifs ou de plus en plus de rentiers, de plus en plus de gens inefficaces vis-à-vis de la situation productive.
On a le sentiment que vous n'avez pas envie de bousculer et de changer les choses, alors que finalement, avec les grands enjeux environnementaux qu'on est en train de vivre, il va falloir réinventer notre système productif. On en est là, non, aujourd'hui?
Oui, non, mais je pense qu'il faut effectivement le réinventer, mais je pense que les gens qui portent cette réinvention, ce sont les entrepreneurs. Je pense que, comme tous les citoyens, ils ont conscience des dangers et de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a urgence, c'est clair, et je pense que l'État, dans ce genre de situation, a un rôle un peu de guide, d'abord de fournir, il doit fournir de l'information, et puis ensuite il doit réorienter les comportements par la fiscalité. Et c'est tout l'enjeu de la taxe carbone. L'État a capitulé au moment des Gilets jaunes parce que la taxe carbone avait été construite de façon...
Un peu contrainte de capituler quand même.
Oui, capituler parce qu'effectivement, il s'était engagé de façon à la fois brutale et de façon
rapide et
désorganisée sur ce schéma-là, sur ce sentier-là. Mais c'est là qu'il faut aller, c'est vers ça qu'il faut agir et laisser Air Liquide produire de l'hydrogène, laisser des entreprises se mettre à fabriquer de l'électricité de façon très locale et accepter.
Et pas trop d'intervention de l'État. On a bien compris.
Voilà. Et si je vous entends bien.
Oui, pas trop.
Hein,
oui.
Voilà. Et si je vous entends bien, vous dites même l'État est là pour réduire ses déficits et l'État n'est pas là pour investir.
Oui, je pense. Oui. D'autant plus que ce que l'on voit pas, c'est que les déficits publics actuels qui génèrent un revenu, qui génèrent une demande assez importante en France, se traduisent in fine par un déficit extérieur très important. Et progressivement, notre déficit extérieur conduit au fait que notre pays se vend à d'autres pays.
Donc vous dites à l'exécutif, là, non, mais attendez, pas de plan en 2030, pour l'instant, on réduit les déficits ?
Ah, je pense, oui. Je pense. Alors, pas les réduire de façon brutale, de façon à éviter, effectivement, la situation à la grecque qu'on a connue dans les années 2010, mais engager un plan sérieux, fiable, de réduction du déficit.
Pourtant, l'exécutif estime que ce plan 2030 peut doubler, voire tripler la croissance. Mmh. Vous n'êtes pas d'accord ?
Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, la dernière fois que l'exécutif nous avait fait voter une loi sur l'évolution de la croissance économique, ça s'appelait la loi Pacte. Mmh. Et ils annonçaient que la croissance allait, grâce à la loi Pacte, passer de la croissance moyenne, la croissance potentielle, de 1,2% à 2,2%. Bon, j'attends de voir à quel moment la loi Pacte aura propulser la croissance de 1,2 à 2,2%.
Et sur ce plan France 2030, on va attendre mardi prochain pour savoir précisément de quoi il en tourne. On sait a priori tout de même qu'Emmanuel Macron voudrait par exemple reprendre la main sur le marché des puces électroniques qui font en ce moment l'objet de pénuries, ce qui impacte pas mal d'ailleurs le système et l'industrie automobile. Avec 4 000 emplois à la clé dans les futures fonderies de puces électroniques, ça va créer des bassins ouvriers. Là, ça semble pour l'instant des chiffres et que sur le papier, mais ça aussi, vous n'y croyez pas.
Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas à cette idée qu'il faille systématiquement produire un certain nombre d'objets, un certain nombre de biens dont nous avons besoin. Et là aussi, dans le livre, je raconte qu'en 1820, au moment où il y a eu le grand débat sur le libéralisme et sur le libre-échange, un certain nombre d'Anglais mettaient en avant le fait que l'Angleterre ne pouvait pas se permettre de dépendre dans sa vie quotidienne d'importations de blé venues de France et des États-Unis, sachant que la France et les États-Unis étaient les deux pays avec qui l'Angleterre avait été en guerre dans les années précédentes. Et pourtant,
question.
Les libre-échangistes ont dit, mais vous savez, lorsqu'on aura créé ce réseau-là, ils nous vendront de toute façon le blé. Et donc les Chinois, les Japonais nous vendront de toute façon les puces dont nous avons besoin. Ouais. Le véritable enjeu, c'est qu'est-ce que nous leur vendons ?
C'est toute la question. Une dernière question sur la taxation des multinationales. Depuis vendredi soir, un accord international est intervenu, en tout cas il est sur les rails, pour que les multinationales paient ce que Bruno Le Maire appelle une juste part d'impôts en freinant l'optimisation fiscale. Est-ce vraiment la révolution fiscale, comme voudrait nous le faire croire Bruno Le Maire ?
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de démagogie dans tout ça. Et c'est de la fiscalité spectacle. Et
ils ont quand même 136 pays à avoir signé. Hein.
Oui,
spectacle,
oui,
mais il y a du monde derrière.
Il y a beaucoup de pays qui pensent que leur signature sera assez vite effacée par le temps, par l'inertie, par la bureaucratie. Et l'enjeu, c'est 150 milliards au niveau mondial, c'est-à-dire 0,2% du PIB mondial. Je pense que les États peuvent économiser 0,2% de PIB s'ils veulent réduire leur déficit public, plutôt que de réinventer des impôts. Ce dont manque l'économie mondiale.
C'est pas un chemin nécessaire quand même que d'essayer d'imposer une taxation à tous les pays de la même façon.
Non, c'est pas une nécessité économique. Après, c'est une nécessité politique pour morale pour certains. Je pense que imposer des impôts sur des gens qui créent de la richesse, parce que ces entreprises créent de la richesse, c'est pas forcément très moral.
Jean-Marc Daniel, histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs jusqu'aux cyber-travailleurs. Vous voulez expliquer l'économie à tous, ça part effectivement de très loin et ça nous rejoint aujourd'hui sur cette économie post-pandémie. Merci beaucoup.
Merci.
Jean-Marc Daniel d'être venu en parler ce matin. Je précise que c'est publié chez Talendier. Bonne journée.